Bonjour, au micro, Ilan Rosanquier qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en direct d'Israël Nissim Zvili. Bonjour Nissim.
Bonjour Alain.
On ne présente plus Nissim Zvili, mais en général, quand on dit ça, c'est toujours pour le présenter en quelques mots. Donc, je me contenterai de rappeler tout simplement qu'il a été ambassadeur d'Israël en France de 2002 à 2006, après avoir été longtemps député et secrétaire général du Parti travailliste de 1992 à 1998. Donc, durant la période où Yitzhak Rabin a été Premier ministre. Et ce n'est pas indifférent à l'heure où nous allons commémorer dans quelques jours, nous y reviendrons peut-être en fin d'émission, le 22e anniversaire de son assassinat. Mais tout d'abord, Nissim, l'actualité oblige. J'aurais aimé avoir ton sentiment sur le, si c'est possible, sur le projet concernant le Grand Israël, qui devrait être le Grand Jérusalem, pardon. Qui devrait être lapsus significatif, qui devrait être adopté en conseil législatif ministériel dimanche. Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'une très grande majorité des juifs du monde, et même des juifs israéliens, ne connaissent pas vraiment en profondeur le sujet. Quand on parle du Grand Jérusalem, on parle de Jérusalem, Grand Jérusalem, capitale de l'État d'Israël, c'est après l'annexation depuis 1969 d'un territoire qui fait à peu près 15 fois plus que la ville de Jérusalem avant la guerre, mais surtout qui inclut 29 villages palestiniens et 4 camps de réfugiés palestiniens. Ça veut dire que quand on prend en compte la démographie de cette ville, on voit qu'entre ces 800 000 habitants, il y a plus de 300 000 qui sont palestiniens, qui ne veulent pas être... ils veulent être résidents de Jérusalem. Ils ne veulent pas devenir citoyens israéliens, ils n'ont pas le droit de devenir citoyens. Alors, la question que je me pose, vous savez, moi j'ai fait la guerre de Jérusalem. J'étais entre les parachutistes qui ont fait cette guerre. Et la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt d'un peuple, de l'État d'Israël, d'avoir une capitale dans laquelle plus d'un tiers. Ce sont des Palestiniens qui sont contre l'occupation israélienne, qui ne participent pas aux élections parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la légitimité de la présence israélienne sur ce territoire. Pourquoi on met en danger et en friction deux populations qui n'ont rien en commun? Et après tout ça, le niveau des services donnés par l'État d'Israël et par la municipalité de Jérusalem à ces quartiers palestiniens, aux villages palestiniens, il est à peu près un niveau de 30, 35 et 40% de ce qui est donné aux Israéliens, exactement avec le même droit. Ça veut dire que quand on pose vraiment la question, le Grand Jérusalem, moi, ça ne me dit rien du tout. Pour moi, l'importance, vous savez, la vieille ville, que c'est elle le symbole. C'est ça le cœur de l'État. Le dernier quartier juif qui est annexé à Jérusalem, après avoir passé des villages arabes, il est à 15 km de la vieille ville de Jérusalem. Plus de 15 km. Alors on se pose la question, ça veut dire quoi, le Grand Jérusalem? Pourquoi on est obligé de dominer la vie quotidienne de 300 000 Palestiniens? Pourquoi on est obligé de donner des services à des résidents avec lesquels on n'a pas vraiment des liens d'appartenance? Et c'est pour ça que pour moi, c'est une décision qui a été prise par un gouvernement d'union nationale qui a été soutenue
Tout à
par
fait.
la gauche en 1969, et maintenant, quand on voit les résultats, 80% des tensions et des attentats terroristes sont
Ils viennent de
autour
là-bas.
de Jérusalem. Le conflit religieux se reconstruit là-bas et se
Tout à
développe et
fait.
commence par
C'est
là-bas.
donc un sujet extrêmement, extrêmement sensible, et c'est pour ça que cette démarche unilatérale risque de poser beaucoup plus de problèmes qu'elle
Oui, bon,
n'apportera de
pour
solutions.
moi c'est clair depuis, c'est pour moi c'est clair beaucoup plus
Mais
depuis très très
nous aurons
longtemps.
l'occasion d'y revenir, en tous les cas, parce que c'est un sujet qui, compte tenu de la sensibilité de Jérusalem, restera à
Oui,
l'ordre du jour
je
encore,
comprends très bien.
quelque temps.
Je comprends très bien cette sensibilité, mais on a besoin d'un peu de sagesse et d'intelligence quand on veut prendre des décisions qui
Alors, à
sur
propos de
l'avenir
sagesse,
de notre
revenons un
État.
peu au sujet qui devait nous occuper ce matin et qui, en s'appuyant justement sur ta connaissance intime du parti travailliste, que tu as fréquenté de près pendant une longue période, il s'agit des récentes déclarations d'Ali Gabay, qui est le président du parti travailliste, et des déclarations qui ont suscité un certain remous dans l'opinion publique israélienne, puisqu'elles sont un peu en rupture avec la tradition du parti travailliste et d'une certaine gauche, lorsqu'il a déclaré que les colonies israéliennes, par exemple, étaient dans Cisjordanie, étaient le beau visage du sionisme, réclamant le contrôle israélien sur la vallée du Jourdain et déclarant également à une autre occasion qu'il s'opposerait à l'évacuation des colonies. Nous reviendrons ultérieurement sur sa déclaration concernant les Arabes. Donc, indépendamment du bien fondé de ces déclarations, comment tu expliques un petit peu ce tournant des positions qui, pour l'instant, n'ont pas été entérinées par la totalité du parti, mais comment expliquer cette rupture par rapport à une tradition du Parti travailliste?
D'abord, je vous l'ai dit que je ne veux pas encore critiquer le nouveau président du Parti travailliste, parce que, étant donné qu'il a été élu démocratiquement par les membres du Parti travailliste, il faut lui donner une période de grâce et de lui permettre de reconstituer peut-être
Oui,
une nouvelle approche
tout à
du
fait. Il n'est
Parti
pas question
travailliste.
d'une critique personnelle ici, mais
Mais
de
ce que je veux
comprendre.
dire, oui, ok. Alors, pour moi, j'espère que c'est une tactique politique, mais ce que je peux dire très clairement de mon point de vue personnel, c'est que si ces déclarations sur les sujets du conflit israélo-palestinien, sur les sujets des relations entre les Juifs et les Arabes israéliens dans la société israélienne, si ces déclarations deviendront une partie de la plateforme politique du Parti travailliste, d'abord, le parti, ça veut dire que le parti a complètement perdu sa raison d'être. Et deuxièmement, très clairement, moi, je ne voterai pas pour ce parti. J'espère encore que ça va changer. Je crois qu'il y a une immense majorité des membres du Parti travailliste, des vrais travaillistes, qui ne voudront pas adopter ces nouveaux messages. Et ça sera plus le Parti travailliste pour moi. Ce sera plus un parti de gauche. Ça veut dire que pour moi, j'ai aucune raison pour voter ni pour ce leader, ni pour le Parti travailliste avec ce changement.
Donc effectivement, espérons que ça soit une démarche plus tactique pour essayer d'élargir un petit peu
Je
l'électorat
l'espère.
du parti travailliste. Sur la question des Arabes israéliens et sa déclaration disant, on approche de la fin de sa déclaration disant qu'il ne gouvernerait pas avec les Arabes israéliens, penses-tu qu'il est possible d'infléchir la politique sans, comment dirais-je, associer les Arabes israéliens de façon plus intime à la politique israélienne, à la politique étrangère, et qu'on peut les laisser un petit peu à l'extérieur du champ politique comme c'est le cas actuellement?
Vous savez, tout d'abord, ce que j'espère, il a voulu dire, qu'il ne voudra pas le parti arabe unifié aujourd'hui qui est représenté à la Knesset comme partenaire à la coalition. J'espère qu'il ne veut pas dire, qu'il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas une option politique d'avoir des membres
arabes
de là, comme ministre, par exemple. On en avait déjà dans le parti travailliste.
Dans le parti travailliste, on a eu dans le PAM à l'époque.
Une différence dans le courant, dans la liste unifiée des Arabes, il y a quelques éléments qui sont ultra radicaux.
Tout à fait.
Et je comprends si on peut se permettre de dire, comme par exemple, je ne voudrais pas créer une coalition avec les ultranationaux israéliens. On ne voulait pas avoir ce genre de coalition. On peut dire qu'on ne veut pas voir les courants ultranationalistes arabes dans notre coalition si on sera demandé de créer un gouvernement. Ça, je peux comprendre. Mais de dire qu'on ne fera pas de coalition avec 20% de la population, ça, c'est très dangereux, c'est à la limite du racisme.
C'est là l'ambiguïté. Espérons que cette ambiguïté sera levée prochainement. Nous arrivons à la fin de notre émission. Le temps passe très vite. Nissim, je voudrais te remercier et nous aurons encore l'occasion d'en reparler. Je voudrais juste terminer en rappelant que le 8 novembre au soir à Paris, à la mairie du 20e arrondissement, se déroulera la commémoration de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en présence d'une délégation de femmes israéliennes pour la paix et de femmes palestiniennes. Je vous invite à vous rendre sur le site de La Paix Maintenant, www.lapaixmaintenant.org, où vous aurez tous les détails de cette manifestation et les modalités d'inscription, l'inscription étant obligatoire. Je vous remercie et à la prochaine émission.